La commission scolaire de la région de Sherbrooke a annoncé hier vouloir 160 millions de dollars d'ici 2029. Naturellement, ça prend l'apport financier du gouvernement. Hein? Ça sort pas de la sacoche, la commission scolaire, comme ça, là. Alors, c'est un plan. Beaucoup d'agrandissements, nouvelles constructions, un projet qui est reporté, celui de la fameuse école secondaire D. Là, on vise davantage une nouvelle école Michel-Montcalm. Ce qu'on avait parlé il n'y a pas si longtemps. Et on pourrait servir aussi des locaux qui seront délaissés dans Michel-Montcalm pour d'autres choses. Comment s'est reçu ce grand plan et autres sujets abordés avec le président du syndicat de l'enseignement de l'Estrie, Richard Bergevin? Bonjour.
Bonjour, M. Pelletier.
De voir quand même qu'on s'occupe de notre future clientèle avec des besoins, création de classes, agrandissement, vouloir donner de l'espace. Comment vous recevez ça?
Bien, en fait, dans un premier temps, on reçoit ça positivement. On va avoir besoin d'espace pour nos élèves en Estrie, particulièrement à Sherbrooke, qui a une augmentation de clientèle. On va avoir besoin de plus de locaux, puis on souhaite que, en même temps, pendant ces rénovations-là, puis ces changements-là qui vont se produire, oui, que la commission scolaire ait un peu d'ambition, puis qu'elle nous construise des locaux intéressants, particulièrement si je pense à Mitchell-Montcalm, qui ont une vocation musique, puis qui n'ont pas encore de salles intéressantes pour faire des spectacles, ben, je pense que ça peut être très positif.
Oui, mais très onéreux aussi. Hein. C'est des coûts importants.
Oui, évidemment. Mais vous savez, ça fait partie, à un moment donné, des choix de société que nous faisons. On a des élèves, on a des enfants. Il faut les éduquer, puis si on vise toujours le plus bas possible, ben on va avoir ce qu'on obtient. Mais ceci étant dit, au-delà du béton, au-delà des murs qu'il faut construire, on a des élèves de plus, ça va prendre des enseignants de plus aussi.
Ben, c'est une équation qui est tout à fait réaliste, là.
Qui est direct. Puis à Sherbrooke, on est en croissance, mais dans les dernières années, là, on est passé de là 3 ans à une situation stable où quand il y avait on avait des contrats à offrir, il y avait assez d'enseignants. L'année passée, on était dans une situation limite où des fois, on avait de la misère à trouver des enseignants. Oui. Cette année, on est dans une situation critique. On a souvent des enseignants et des enseignants qui sont remplacés par des gens qui n'ont pas de formation en enseignement.
Oui. Des surveillants de classe. Là, on est vraiment... Ben, c'est ça. Puis même que des fois, c'est le directeur ou la directrice qui doit y aller parce qu'il n'y a personne pour remplacer. Là.
Ça prend un adulte devant les enfants.
C'est ça.
Puis on s'entend tous là-dessus. Sauf que qu'est-ce qu'on va faire avec la croissance présentement? Est-ce qu'on va prendre les moyens nécessaires pour avoir suffisamment d'enseignants? Parce que, vous savez, il y a deux situations là-dedans. Il y a les gens qui sont en poste, puis il y a les gens qui vont arriver éventuellement de l'université. On sait que les gens qui sont en poste présentement, il y a beaucoup de gens qui quittent. Puis, particulièrement cette année, on a reçu beaucoup de téléphones au bureau du syndicat pour nous dire, bon, moi, là, je ne suis pas rendu à ma retraite, mais je veux quitter. Comment je dois faire? Puis, on essaie toujours de leur trouver une façon qu'ils puissent rester dans le système parce qu'on sait qu'on en a besoin. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent quitter. On a besoin de changer des choses importantes dans la tâche des enseignantes et des enseignants. Présentement, les gens, ils sont saturés.
Oui, ça, on le sait. Et ça, je pense que vous l'avez souvent établi. Puis je pense que les gens sont conscients. OK. Plan, comme on dit, plan A. Le gouvernement en place a parlé de revalorisation, justement, de la profession. On veut augmenter le salaire. Ça, je pense que ça va aider. Mais ça va au-delà du salaire.
Oui, tout à fait, parce que si on va juste avec le salaire, bon, mettons qu'on mettrait des augmentations importantes, ça va attirer des jeunes, mais ils vont être dans le système dans 5 ans, dans 6 ans à peu près.
Ouais,
ils
ne
seront pas
dans
le système demain matin, et on en a de besoin maintenant. Ouais. Dans la tâche des enseignantes et des enseignants, là, puis on n'a même pas besoin d'aller jusqu'au gouvernement. Dans les commissions scolaires, il y a des choix qui peuvent se faire pour réorganiser la tâche des enseignantes et des enseignants, concentrer sur l'enseignement, laisser tomber un paquet de choses autour. Puis ces choses-là qu'on laisse tomber autour, là, ils peuvent être faits par des gens qui n'ont pas besoin d'être des enseignantes et des enseignants. Il y a des surveillants de corridor, il y a des techniciens à loisirs, des gens comme ça qui coûtent moins cher au système que des enseignants, puis qui pourraient faire une part de travail, et ça allégerait la tâche de façon réelle des enseignants. Puis ça, là, ça peut se faire à court terme. Okay. On n'a n'a pas besoin d'aller à très long terme. Okay. Mais il va falloir que le gouvernement fasse des investissements majeurs au sein de l'éducation. Ouais. Vous vous souvenez, M. Petit, on s'est parlé du budget quand c'est sorti, puis vous m'avez dit, est-ce qu'il y a des éléments positifs? Oui, il y a des éléments positifs dans le budget, mais ce n'est pas vrai que c'est le budget de l'éducation. Parce que quand on veut savoir c'est quoi les priorités du gouvernement, on regarde où est-ce qu'il investit son argent. Et cette année, dans le budget, il y avait plus d'argent pour l'économie proportionnellement et il y avait plus d'argent pour la santé proportionnellement. Les augmentations de dépenses étaient plus importantes en santé qu'en éducation. Alors, on ne peut pas dire que ça a été le budget de Jean-François Roberge. Ça a été plus le budget de Marguerite Blais. Et ça, je pense qu'il faut être capable de se le dire que l'éducation aussi, a besoin de plus.
Oui, mais M. Bergevin, il y a aussi de l'argent qui est mal investi dans tout le réseau scolaire.
Oui.
On a beau, des fois, vouloir mettre plus d'argent, mais ça ne résout pas les problèmes. Et ça, on l'a vu par le passé, ben en masse. Des réinvestissements, c'était jamais assez. Ah ouais, encore de l'argent, c'est jamais assez. Il y a peut-être des problèmes aussi dans la répartition de ces fameuses enveloppes-là.
Vous avez raison qu'il faut bien utiliser l'argent. Puis tout à l'heure, je vous disais, la commission scolaire peut faire des choix sans qu'il y ait besoin qu'il y ait des coûts additionnels. Bon. Mais vous savez, quand vous me dites qu'il y a eu des réinvestissements puis c'est pas assez, en éducation, depuis le début des années 2000, il y a des milliards de dollars qui ont été coupés. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a eu des vrais investissements en éducation. Ce qu'il y a eu en éducation, c'est de temps en temps, ils ont poussé un petit peu d'argent pour faire taire le monde, mais dans la réalité, il y a eu des milliards. Puis, je ne vous demande pas de réinvestir demain matin 2, 3, 4 milliards, mais il faut qu'il y ait un réinvestissement important. Okay. Et oui, il faut aussi qu'on réorganise les tâches des enseignants.
Un mot sur le tripotage des notes. Robert, je dis, c'est fini concernant les examens du ministère. 58-59, ça va rester 58-59. Mais là, il faut savoir que ça se passe aussi dans nos écoles, puis ça se passe aussi au-delà du 58 puis du 59, avec les profs, les directions d'école, les pressions des parents, puis pauvre Tipit, faut qu'il passe. Ça se réglera pas d'un coup de baguette magique, là.
Premièrement, on est très content du signal que le ministre a envoyé. Le ministre a envoyé un signal clair qui souhaite que la note, ce soit 60, puis que si on n'arrive pas à 60, ben on pourrait prendre votre expression, on tripote pas les notes pour les faire passer.
Ouais, mais vos membres le font, là?
Nos membres, ils le font pas plus que les autres.
M. Bergevin, mettez-vous pas la tête dans le sable, Batins. Il y a des profs qui sont dans votre syndicat qui le font à la semaine longue. Voyons.
Présentement, là, ce qu'il faut qu'il se passe, là, c'est que l'enseignant fasse un geste professionnel, c'est-à-dire qu'une évaluation professionnelle des apprentissages de l'élève. Et si à la fin, l'enseignant considère que l'élève a eu la note de 60%, il doit la mettre, mais ça lui appartient. Puis si jamais quelqu'un remet en question son évaluation, il doit poser la question à l'enseignant, puis c'est l'enseignant qui doit répondre et se justifier dans son évaluation. Ça, il ne faut pas qu'il y ait une note qui monte automatiquement. Puis la raison pour laquelle ça arrive à l'occasion, et c'est pas souhaitable que ça arrive à l'occasion, c'est que dans les écoles, le signal qui est donné aux enseignants, c'est si tu penses que l'élève doit avoir 60, mets-y 60. Ouais. Mais c'est pas comme ça qu'on doit faire. On doit évaluer les apprentissages, puis ensuite faire l'évaluation. Puis une fois que l'évaluation est faite, c'est le résultat que ça donne.
Ouais. Mais M. Bergevin, vous le savez souvent que ça fonctionne pas comme ça, qu'un parent va pas parler à la direction au prof, puis à un moment donné, oups, la note change. On sait également que dans certaines écoles, il y a des directions qui passent leur message. On sait aussi que des profs de leur initiative qui le font. Viendrait pas dire le contraire, là?
Moi, ce que je vais vous dire clairement, c'est que c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Ce qui doit fonctionner, c'est que l'enseignant fait son évaluation. Les parents, ils ont un recours. S'ils pensent que l'enseignant a pas fait l'évaluation correctement, ils peuvent demander une réévaluation. Ouais. L'enseignant doit reprendre les évaluations qu'il a faites durant l'année, réviser, s'assurer que tout était correct, qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la compilation, qu'il n'y a pas eu d'erreur dans l'évaluation, et ensuite donner sa justification aux parents. Good. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça le geste professionnel qu'il doit faire. C'est cette promotion-là qu'on doit faire. On doit faire la promotion de ce système-là.
Bien, que ça soit clair pour tout le monde et que ça parte d'en haut, puis que ça arrive dans la classe, puis que tout le monde l'assume et qu'on joue pas aux hypocrites.
on doit... Présentement, là, l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce que les commissions scolaires vont faire avec le signal du ministre.
Ouais.
Est-ce que les commissions scolaires vont assumer le message du ministre ou s'ils vont rester sur leur position? Puis moi, ce que je souhaite, c'est qu'ils donnent le message clair à tout le monde, à partir d'en haut de la commission scolaire, que tout le monde doit respecter cette évaluation-là et que ça se passe tel que je vous l'ai dit, c'est-à-dire que si un parent pense qu'il est lésé, qu'il y a un recours pour réévaluer la situation, et c'est tout à fait correct.
Oui, parce que faut pas oublier les fameux palmarès d'école, hein?
On n'est pas d'accord avec ce principe-là.
On s'en reparlera. Merci, M. Bergevin.
Ça va en faire plaisir. Merci beaucoup, M. Pelletier.
Merci, Richard Bergevin, président du syndicat de l'enseignement de l'Estrie.